Oui, bonjour, bienvenue à cette émission Ondabulde, donc avec aujourd'hui en la présence de Algestiras et Aurore Demilly, respectivement donc scénariste et dessinatrice de Elinor Jones aux éditions Soleil dans la collection Blackberry.
Bonjour. Bonjour à vous.
Voilà, donc pour faire simple, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter un petit peu, comment vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a amené à travailler toutes les deux ensemble, voilà.
Alors, on se connaissait un petit peu déjà via le net. En fait, on connaissait nos sites respectifs, nos travaux respectifs, et je pense que y avait pas mal d'affinités dans nos goûts, et puis il y a eu un moment où on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et puis on a vraiment réfléchi à faire quelque chose où on se ferait totalement plaisir en faisant quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu avant, parce que effectivement à l'époque surtout les séries sur la mode, il n'y en avait quasiment pas en France. Il y en avait au Japon, mais pas trop en France. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir sur un scénario comme ça qui pourrait nous permettre de... de se faire plaisir et d'aller à fond dans ce qu'on avait envie de faire.
Oui, moi je me souviens surtout quand j'ai alpagué Anne-Laure, c'était un mini festival Delcourt à Bruxelles. Et au repas, je fais Anne-Laure, je veux faire quelque chose avec toi. Et voilà, en fait. Le résumé, la version courte.
D'accord. Donc, le fruit de cette collaboration, qui a donné la trilogie Elinor Jones, qui vient de se conclure, il y a quelques mois, aux éditions Soleil. Pour en dire un petit peu sur ce personnage-là, pour ceux qui n'auraient pas encore lu les albums, Elinor Jones est une jeune femme qui arrive à la maison Tiffany, une maison de haute couture extrêmement réputée dans l'Angleterre victorienne, on peut dire ça comme ça.
Oui, c'est une uchronie, c'est une Angleterre victorienne imaginaire. Donc on a gardé tout ce qui nous plaisait dedans, c'est-à-dire le visuel, les costumes, peut-être aussi l'idée d'organiser des bals et tout ça. Par contre, il y a des choses que personnellement j'ai complètement enlevées, notamment si j'avais voulu faire une bande dessinée historique, j'aurais beaucoup plus... les personnages féminins ont beaucoup plus de liberté dans notre univers qu'ils en avaient à l'époque, j'imagine. Et on a aussi gommé la partie religieuse qui était très présente à l'époque.
Quelque chose à rajouter, Aurore, peut-être, déjà ?
Oui, c'était aussi pour ne pas se donner trop de carcans concernant le design des robes. C'est-à-dire garder cet esprit un peu donc de l'époque victorienne, enfin, c'est un petit peu avant que victorienne, mais... de garder cet esprit, mais tout en ayant une liberté totale sur les costumes.
D'accord.
Sinon, c'est vraiment très très strict. Alors à telle époque, c'était telle mode, il fallait faire ça, comme ça, comme ça, et puis pas autrement. Alors que là, vraiment, c'était comme si ça restait dans l'univers de la couture, de la création, de pas s'arrêter au carcan historique.
Néanmoins, je suppose qu'il y avait une grosse part de documentation justement sur la méthode de couture de l'époque, les instruments, des choses comme ça. C'était quand même quelque chose d'important pour justement créer un univers vraiment crédible.
Oui, oui, tout à fait. Donc moi, j'ai fait des recherches aussi bien pour la maison, puisque l'essentiel se passe dans une maison. Donc les meubles, les lampes, tous les petits accessoires, il fallait... Justement, comme il y avait pas mal d'éléments qui n'étaient pas historiques, il faut qu'on garde cette sensation quand même d'historique. Donc ça passait par tout ce qui était graphique, le visuel.
Oui, et je me souviens que Aurore avait dessiné une certaine partie des planches d'une certaine façon, avec les robes d'une certaine façon. Et puis tout d'un coup, elle m'a dit, mais non, en fait, les robes de jour, elles ne peuvent pas être décolletées, c'est les robes du soir. Et en fait, elle a remonté les décolletés de toutes les robes pour les scènes de jour. C'était tout à fait ça, et c'était vrai, c'était beaucoup plus historique comme ça. Mais c'était amusant parce que du coup, on a tout de suite, tout d'un coup, tous les personnages qui se sont vus recouvrir leur col.
Très bien. Donc en dehors de cet aspect d'Angleterre victorienne, ce qui saute évidemment aux yeux, c'est l'importance de la culture manga, même si c'est un album, des albums 48 pages couleur, donc avec un format européen, on peut quand même signaler cette importance, cette influence de la culture japonaise également, à la fois à travers le scénario et bien entendu à travers le dessin. Quelqu'un veut peut-être réagir en premier, je ne sais pas.
En fait, je pense que c'est surtout, ce qu'on trouve dans le manga, c'est le fait que ça s'adresse à un certain public, notamment le shoujo, qu'on ne trouve pas en Europe. qu'on trouve maintenant, évidemment, à partir du moment où c'est traduit. Mais il y a cette espèce de, comment dire, de langage où on dit, ben voilà, ça s'adresse à vous. Évidemment, nous, on n'a pas cherché à faire ça pour un public précis. Mais il se trouve que, comme on a voulu faire quelque chose qui s'adresse à nous, comme quelque chose qu'on aurait aimé découvrir quand on était adolescente, ou je pense qu'on aurait aimé trouver une bande dessinée comme ça en étant ado. Et donc je pense que c'est ça, surtout ça qui se ressent. Après, il y a des éléments dans le shoujo qu'on n'a pas du tout mis dedans. C'est-à-dire que souvent il y a des histoires d'amour, des choses comme ça. Nous, on a quand même voulu axer notre histoire sur le personnage principal, Elinor, qui est plus préoccupé par les arts de la création, tout simplement.
Oui, et puis après, en effet, au niveau la partie. Enfin, le ressenti manga qu'il peut y avoir aussi, je pense que c'est dans la narration, un certain type de narration qu'on peut retrouver, donc plus lent, plus contemplatif, prendre le temps de raconter les choses qu'on retrouve vraiment essentiellement dans le manga, parce qu'ils ont une grosse pagination. Alors toute la difficulté était de réussir à avoir ce rythme narratif dans un 46 pages, ce qui est très compliqué. Donc ça, c'est le travail d'Anne-Laure. Et puis après, bon, graphiquement, moi, j'ai toujours dessiné, influencé manga. Et donc ça s'en ressent, même si la mise en page, de toute manière, et je reste très carré. Je fais pas des triangles. Enfin, je n'ai pas une mise en page éclatée. J'ai une mise en page très traditionnelle. Mais voilà, c'est un mélange entre la mise en page traditionnelle de format 46 pages, une narration plus manga, où on prend le temps de montrer les choses, les plus axées sur les personnages, et puis la couleur, pareil, de la BD classique. Donc tout ça fait un mélange hybride.
Oui. D'ailleurs, assez intéressant, parce que on peut penser justement à des mangas qui se sont influencés, qui ont été influencés, ou qui ont été avec une volonté de création autour de l'Europe, ne serait-ce que des Candides, des choses comme ça, qui sont des mangas où les personnages ne se ressentent pas. Ils ont des cheveux bouclés, souvent comme beaucoup de personnages que tu as pu dessiner, Aurore, ou imaginer donc à Jessiras. Est-ce que justement c'est des mangas qui ont quand même servi un peu de base, ou vraiment parce que c'était des souvenirs d'enfance, ou autrement peut-être?
Non, honnêtement, je pense que la principale image qu'on a tout de suite, c'est celle de Candy, puisqu'on a un personnage Bianca qui ressemble à Candy. C'était plus un clin d'œil, c'est-à-dire plutôt l'idée de faire un personnage qui soit aussi adorable que Candy visuellement, mais qu'il ne le soit pas du tout dans l'histoire. Maintenant, il n'y a pas de manga en soi qui m'ait en tout cas influencé moi pour ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour un manga qui s'appelle Paradise Kiss, comment c'est le nom de Aiyazawa. Et en fait, ce qui m'a plu dedans, c'est vraiment le thème de la création, le fait que c'est un personnage aussi qui crée des habits, qui est avec une équipe qui crée des habits. Mais honnêtement, non, il n'y a pas de titre qui ressort à part celui-là qui nous a spécialement influencé.
Oui, puis les Anglaises, certaines à l'époque, c'est vraiment.
C'est un peu monnaie commune en fait.
Oui, voilà, je veux dire, c'était la coiffure classique de se faire des Anglaises,
c'est cool.
Oui, non, mais c'est tout à fait logique. C'est comme à l'époque de Marie-Antoinette où ils se crêpent les cheveux avec des grosses choucroutes. C'est pareil, quoi.
Très bien. Un autre aspect qui m'a un peu étonné, un peu, enfin pas étonné, mais en tout cas que j'ai pu remarquer, c'est aussi, je trouve, dans cet album une véritable réflexion sociale sur, si ce n'est la société londonienne et la société anglaise de l'époque, une vraie vision sociale. Par exemple, je pense à deux scènes. Une scène où, dans le troisième volume, si je ne me trompe pas, donc on va voir Elinor qui propose de créer un vêtement assez riche pour un enfant de la basse société, on peut dire ça comme ça, et qui va se faire réprimander parce que c'est un vêtement qui ne sera pas du tout adapté socialement à la personne. Et donc cette idée un peu de lutte des classes qui arriverait presque à travers des anecdotes comme ça, et également à travers la fin, qui, sans la raconter, donne aussi un peu cette idée, cette morale que finalement ni les hommes ni les talents n'est à acheter, et si on peut acheter des robes, si on peut acheter autre chose, on n'est pas forcément on peut payer des choses qui restent quand même des inaltérables et donc inestimables.
Oui, je pense qu'on peut surtout, on a surtout utilisé l'idée de personnages qui sont dans une sorte de haute classe de la société pour créer une sorte d'univers un peu clos. ils sont dans cette maison de couture, ils sont pas enfermés, mais par exemple, à un moment, donc l'héroïne sort faire une promenade. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a d'autres gens. Enfin, il y a d'autres gens. Il y a effectivement un village à l'extérieur, etc. Même si c'est pas réellement nommé comme un endroit historique. C'est plus dans l'idée que comment dire, le fait d'être enfermé dans cet univers qui est un petit peu idéalisé. C'est quand même beaucoup plus idéalisé qu'à l'époque. C'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, les personnages féminins ont beaucoup plus de liberté. Il y a des personnages qui vont nouer une relation entre eux qui normalement aurait été interdite si on avait fait une bande dessinée historique. L'idée c'était vraiment que Elinor va en quelque sorte quasiment tout sacrifier pour sa création et en dépit de ces histoires de noblesse ou de classe. C'est surtout ça. Après, je pense que j'aurais fait ça différemment si j'avais vraiment voulu parler de lutte de classe. Là, c'était vraiment l'idée de créer un espace idéalisé et protégé.
Oui, de toute manière, il suffit de voir sur les trois tomes, c'est quasiment un huis clos puisque tout se passe dans le domaine des Tiffany, tout se passe dans une maison. On voit quasiment pas l'extérieur à part une maison extérieure et c'est le parti pris graphique de ce côté-là. Des décors et de l'ambiance générale, c'était vraiment ce huis clos. Ils vivent dans une espèce de bulle dans cette maison. Et alors c'était pas évident parce que quelquefois il faut ressentir le côté un peu enfermement. De l'autre côté, il faut pas que ce soit non plus hyper pesant parce que pour le lecteur, il va avoir trois albums qui se passent au même endroit. C'était aussi un petit peu là.
Il faut varier les plans et tout. Mais c'est vrai qu'on l'a notamment appuyé à la fin du. À la fin du tome 2, où on montre de manière assez significative les grilles qui entourent le domaine.
Effectivement, je pense aussi qu'il y a un grand travail autour de la couleur, donc notamment beaucoup de personnages très chatoyants, un jardin qui est également, que l'on peut voir, donc qui est aux abords de la maison et qui permet aussi à la fois de libérer un peu donc, cet espace de huis clos qui est très important effectivement dans l'album. Et je pense aussi que le fait que Elinor soit souvent habillée avec des couleurs plus grises, un peu plus... le fait qu'elle arrive et finalement qu'elle ne soit pas tout à fait graphiquement, ou en tout cas d'une manière colométrique, on va dire ça comme ça, si le mot n'est pas tout à fait exact. Voilà. Mais ça fait partie aussi de la narration, c'était une vraie volonté, je suppose.
Oui, tout à fait. C'était vraiment la volonté. Elinor, son personnage, c'est pas un personnage flamboyant. On peut arriver comme quelquefois dans des BD, on voit le personnage arriver, le personnage principal, c'est le super design, le personnage qui brille, qui flamboie, qui est Nora, pas possible. Elle est toute menue, c'est la petite souris grise que personne ne remarque. D'ailleurs, ses vêtements sont toujours gris. C'était la base et elle est toujours grise. D'ailleurs, un certain nombre de lecteurs, lectrices avaient aussi cette demande de quand est-ce qu'on va voir Elinor avec des beaux atours. Oui, mais non. Non.
C'était pas vraiment son. Elle justement, c'est ce qu'elle crée elle-même qui amène de la couleur. Non, j'aimerais mettre l'accent sur justement le travail d'Aurore. Si on regarde cette trilogie, elle a créé une gamme colorée différente quasiment à chaque scène. Donc ça se déroule quand même sur une assez longue période, plusieurs saisons. Pouvoir faire passer le temps narrativement, on n'a pas 36 solutions, donc on utilise le jour, la nuit, les saisons, pour ça on utilise la couleur comme mode narratif et à chaque fois Aurore a fait une sorte de fantastique mise en couleur qui fait que chaque scène a sa propre ambiance colorée. C'est beaucoup beaucoup de travail.
Vous parliez à l'instant de vos lecteurs et toutes les deux d'ailleurs vous avez beaucoup de rapports avec un public, un rapport assez direct, que ce soit à travers des blogs, que ce soit à travers un concours d'ailleurs que vous avez organisé sur internet assez récemment avec justement la création de proposer à vos lecteurs de créer des robes pour la série. Il y a également donc beaucoup de salons dans lesquels vous êtes présents avec parfois même des petites publications en auto-édité. C'est quelque chose qui est très important et qui parfois ne se retrouve pas auprès d'autres auteurs. Est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part de poursuivre dans ce domaine ?
Pour le concours, ça c'est vraiment c'est une idée qu'on a eue relativement tôt. On aime beaucoup tout ce qui est bonus, enfin, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup, par exemple, on aime bien quand les éditeurs sont d'accord de mettre des bonus dans les albums. Alors, on n'a pas pu le faire pour Elinor, on le regrette énormément, de mettre des croquis, des choses comme ça. Et faire participer les lecteurs, c'est aussi un plaisir aussi. Donc on a eu envie de voir un petit peu, de lancer un concours sur la mode. Maintenant, c'est resté effectivement très limité Internet. On n'a pas pu le faire de manière... ça aurait pu être lié à un festival ou à une exposition ou ce genre de choses. Mais ceci dit, on s'est bien amusé là-dessus. Moi, je ne fais pas d'autopublication, mais Aurore, elle en fait aussi. Donc, elle peut utiliser le réseau de lecteurs sur Internet pour diffuser ce genre de choses. Donc c'est un côté vraiment amusant, un côté clin d'œil, et puis aussi un hommage aux lecteurs qui s'intéressent à ce thème-là de la mode, et puis de la mode pour se faire plaisir, pour imaginer, en fait.
Ah oui, donc moi, pour l'autopublication, principalement, je fais à Japan Expo, où j'ai un stand là-bas, donc je fais toujours mes sorties de nouveaux livres un par an à cette occasion-là. Mais c'est surtout parce que j'ai commencé à faire de la bande dessinée en faisant mon fanzine. Donc après j'ai dû arrêter quand j'ai travaillé dans le dessin animé, mais après, quelques années après, j'ai pu reprendre. Donc j'ai toujours eu cette volonté de faire quelque chose à côté, de pouvoir publier des choses qu'on ne peut pas publier en BD, donc notamment les carnets de croquis, toute la démarche sur, par exemple, je sais pas, la maison des Tiffany, les recherches que j'ai fait dessus, les croquis que j'ai fait dessus, pourquoi elle est comme ça et pas comme ça. Voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui font partie aussi de la compréhension de l'album. Enfin, c'est structuré, c'est pas fait au hasard. Et c'est des choses intéressantes qui peuvent être mises dans les albums, mais qu'on peut rarement faire. Donc toutes ces recherches, moi j'aime bien. Bon, là si je le fais pas forcément sur les séries, je fais sur d'autres sujets, ça me permet de faire plus de choses, et donc je fais comme ça dans des livres ou même des BD, parce que j'ai aussi publié des BD comme ça, et c'est des petits des petits récrés à côté.
Très bien. Donc en parlant de récré, vous êtes toutes les deux donc à Angoulême actuellement. Quel est votre rapport avec un festival aussi important que celui d'Angoulême? Et que pensez-vous par exemple aussi de la nouvelle attribution du Grand Prix qui va passer justement par le vote des auteurs? Est-ce que vous allez voter sur la liste qui a été préétablie? Vous avez peut-être entendu parler donc de ceci. Voilà. Anne-Laure.
Alors, pour le Festival d'Angoulême, là, oui, ce qui est d'autant plus important pour nous, c'est que depuis la sortie du tome 3, on n'a absolument jamais pu dédicacer le tome 3 ensemble. Donc le Festival d'Angoulême nous donne cette opportunité. Pour ce qui est du Grand Prix, moi, j'ai déjà voté quand il y a déjà eu cette démarche de faire voter les auteurs 2 ans de suite qui ont donné les Grands Prix de Crum et de Gossos. Moi, enfin, honnêtement, je pense que la présélection qu'on nous a proposée, qui est excellente, hein, ce sont tous tout à fait des auteurs qui méritent le Grand Prix, mais ça a un des avantages, c'est que on a les Grands Prix pour les 14 prochaines années, c'est-à-dire que il n'y aura plus de surprises, c'est fini maintenant. Quel que soit le vote, on va avoir toujours les mêmes qui vont revenir. En même temps, pourquoi pas les récompenser? Moi, ça fait des années que j'ai envie de voter pour Alan Moore et ce genre de personnes qui sont totalement inéligibles, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de voter pour eux. Mais c'est ça.
Moi, j'étais pas trop courant parce que comme j'ai un peu le nez dans le boulot...
Donc en fait le principe c'est que cette année donc voilà une présélection d'auteurs donc a été établie par je ne saurais dire trop qui, et donc les auteurs vont devoir choisir dans un premier temps donc en tirer quelques-uns, et normalement si j'ai bien compris l'Académie ensuite du Grand Prix sélectionnera le Grand Prix sur la sélection des quelques auteurs qui ont été choisis. Il y a 3 mangakas notamment cette année, Katsuhiro Otomo, Akira Toriyama, Jiro Taniguchi, et donc ensuite pas mal d'auteurs français et européens. Est-ce que ça... Je vois que vous avez fait réagir.
Oui, donc voilà, bon, après ça revient à ce que j'ai dit Anne-Laure. En effet, ce sont des... On touche juste le manga des auteurs, vraiment des grandes, très très grosses pointures, mais bon, après, il n'y a plus de surprises. Enfin, Est-ce que c'était nécessaire de faire un vote des auteurs pour attribuer des prix à ces auteurs-là? Je pense que c'est, enfin, il n'y a pas vraiment l'utilité. Ils peuvent le faire sans avoir l'aval d'autres auteurs pour attribuer des prix prestigieux à ces auteurs prestigieux.
Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'effectivement, ils donnent le prix à un scénariste. Je crois qu'il y a deux ou trois scénaristes dedans. Rien que pour le casse-tête que ça doit être de travailler avec ça. En plus, tu as des auteurs dans la sélection qui ne veulent absolument pas le grand prix ou qui n'en ont absolument pas besoin ou pour qui c'est pas... Et j'imagine le casse-tête quoi, de donner ce prix à Taniguchi et tout ça. Qu'est-ce que ça... Rien que pour ça, ça doit être drôle. Mais bon, je pense surtout à des gens comme Alan Moore qui sont totalement... comment dire, bon, ils sont pas très connus du grand public français, donc c'est des grands prix absolument pas glamour pour le festival, et ce serait trop bien qu'ils soient élus. Parce que justement, Crumb et Gossens, personne ne les attendait. Et quand on discute un peu avec les auteurs, c'est pratiquement presque les gens les plus légitimes depuis plusieurs années qui ont été élus. Et bon, peut-être, voilà, je pense que de toute façon, là, vu la sélection, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'erreurs à commettre.
Très bien. Bien, sur cette note d'espoir, on va conclure l'interview. Merci Algeciras, merci Aurore de votre patience et de votre intérêt pour l'émission Ondabulle, donc qui sera diffusée sur 93.3 Radio Campus. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous.